Madame, Monsieur, bonjour, Gilles Barré au micro, le mic de Cahors, c'est maintenant. Alors depuis mai dernier déjà, Cahors accueille 80 sculptures de Marc Petit, une expo gratuite à ciel ouvert qui jalonne la ville. Alors du quai La Grive jusqu'au pont à l'entrée en passant par le parvis de la mairie, au musée Henri Martin, les allées Fénelon, soit à peu près 17 sites au total dans le cadre de l'exposition d'une rive à l'autre et ce jusqu'au 20 septembre. Marc Petit, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Quand on découvre comme ça vos sculptures, on est immédiatement frappé par ces figures humaines. Mais quelles sont-elles? Qu'est-ce qu'elles représentent? Ce ne sont pas des personnes connues.
Non. Je travaille. J'ai longtemps travaillé avec des modèles, mais je le fais plus. En définitive, elles ne représentent personne. Pour espérer représenter tout le monde. C'est le rêve de l'universalité qu'a tout artiste.
Ouais. Mais qu'avez-vous envie de raconter à travers ces corps? Parce qu'en fait, on ressent une certaine mélancolie en les observant. Est-ce que c'est une émotion que vous cherchez à transmettre ou est-ce que c'est une interprétation parmi d'autres du monde vivant que vous observez?
Alors, une œuvre d'art, une sculpture en l'occurrence, ne raconte rien. Si elle devait raconter quelque chose, je le dirais avec des mots. Une œuvre d'art, enfin une sculpture, dit l'indicible.
Pourtant, la sculpture qui se trouve sur le parvis de l'Hôtel de Ville, c'est un homme qui est assis, qui a la main levée en l'air, qui semble discuter avec quelqu'un ou avec nous, je ne sais pas comment dire.
Mais oui, mais si vous voulez, le spectateur a tous les droits d'interpréter, mais le sculpteur ne va pas à l'atelier en disant « Tiens, je vais raconter telle ou telle histoire ». Ma sculpture est nostalgique, parce que je suis nostalgique. Ma sculpture a un seul sujet, c'est le rapport au temps, la condition humaine. La mélancolie, oui, vous en avez parlé, mais c'est mélancolique, c'est une sculpture sombre, c'est une sculpture noire, c'est une sculpture douloureuse, et à la fois, si elle a une qualité, c'est qu'il y a autre chose, parce que faire crier une sculpture, c'est d'une simplicité d'enfant, c'est pas ça le propos, le propos c'est aller chercher la beauté, aller chercher une forme de tendresse, mais ce propos-là est masqué par l'image douloureuse qui est réelle. Je suis spectateur aussi de mon travail. Et je trouve que ça génère une énigme. Et si ma sculpture a une qualité, c'est cette énigme. C'est-à-dire comment cet objet aussi triste, aussi noir, aussi sombre, peu importe, me touche autant, me dit des choses. Et à la fois, comment quand on commence à le regarder réellement, comment je peux y trouver une forme d'élégance. Comment peut-être elle s'approche de la beauté, comment, sauf que c'est pas une beauté de papier glacé, si vous voulez, c'est pas le joli. Dès que je vois quelque chose de joli dans mon travail, j'essaye de l'éliminer le plus vite possible, quoi. J'ai horreur de la joliesse.
Ouais. Mais comment ça naît dans votre tête? C'est une émotion au départ qui vous donne envie de créer telle ou telle sculpture, ou c'est une réaction par rapport à un événement? Comment ça naît?
Alors, ça naît, c'est énigmatique aussi. Comment ça naît? En définitive, ça n'est pas d'une émotion, ça n'est pas d'un sujet, ça n'est pas, ça naît de mes lacunes. On va dire que j'ai été inspiré la première fois à 14 ans quand j'ai fait ma première sculpture et je me suis rendu compte de tout ce que je ne savais pas faire, si vous voulez, de toutes les lacunes que j'avais. Et quand j'ai attaqué la seconde pièce, j'ai essayé de pallier à ces lacunes, d'aller un peu plus loin dans la connaissance. Et en définitive, c'est une manière d'essayer de se reconnaître, d'arriver à se voir, mais à se voir dans une forme de vérité vraie, en enlevant le maquillage. Et enlever le maquillage, c'est long. Et ça fait 50 ans que je fais de la sculpture, ça fait 50 ans que j'essaye d'enlever le maquillage, et je pense que j'y suis toujours pas arrivé.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot. CFM Cahors, le mag. C'est à Canary Bay, où les filles qui vivent.
Canary Bay, Indochine sur CFM Radio. Le mag de Cahors aujourd'hui consacre son émission à la sculpture, à une exposition qui s'appelle D'une rive à l'autre, à découvrir dans les rues de Cahors jusqu'au 20 septembre et c'est gratuit. Et le dimanche 12 juillet, Marc Petit sera sur place, l'occasion pour le public de découvrir ses œuvres à ses côtés. On retrouve Marc Petit dans quelques secondes.
CFM Radio, 40 ans de liberté. 40 ans d'expression. CFM Cahors, le mag.
Vous avez dit que vous avez commencé à 14 ans, mais déjà au bronze, déjà vous travaillez le bronze?
Non, je travaillais à l'époque, pour moi, là, je connaissais absolument rien à la sculpture. Pour moi, le sculpteur que je connaissais peut-être, et encore, je dis peut-être parce que je ne suis même pas sûr, c'était Michel-Ange. Donc pour moi, c'était la pierre.
Ah oui.
Et j'ai commencé en taillant des pierres. Et alors après, bon, c'est une histoire un peu longue. J'ai rencontré un sculpteur, René Fournier, qui était à Cahors, qui m'a dit, attends, on ne commence pas avec la pierre, on commence avec un matériau qui permet de chercher, c'est-à-dire le plâtre, la terre, la cire. Et après, tu verras si éventuellement tu retailles en marbre, tu retailles en pierre, tu retailles en bois, et éventuellement tu fais en bronze. Et donc, petit à petit, si vous voulez, le bronze a été vraiment primordial dans mon travail. Ma sculpture est faite pour le bronze.
Alors, je le disais dans le lancement, il y a quand même 80 sculptures qui sont exposées. Est-ce qu'il y a des sculptures que vous ne montrez jamais, qui restent dans l'atelier?
Alors, il y a des sculptures même qui sont vouées à disparaître totalement. Je détruis une sculpture sur deux à peu près.
Ah ouais, quand même.
Et je ne détruis pas assez. je devrais en détruire plus. Donc il y a
oui, mais il faut nous dire pourquoi. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous n'êtes pas content de vous-même?
Parce qu'elles répondent pas à l'architecture de la sculpture, si vous voulez. Elles répondent pas à l'orthographe, à la grammaire. La sculpture, c'est une langue. C'est une langue qui est vouée à être déformée, à être... Mais si les déformations ne sont pas de bonne qualité, si vous voulez, on peut déformer la langue, mais pour déformer la langue, il faut la connaître. Et il arrive parfois que ces déformations sont exagérées, sont vraiment pas belles, sont gratuites. Une déformation, elle ne doit pas être gratuite. Si je conjugue un fémur en l'allongeant, eh bien, il va falloir que le tibia soit long aussi. Et si vous voulez, c'est une langue qu'il faut essayer de faire aller un peu plus loin.
Mais est-ce que vous partez d'un dessin ou c'est votre imagination directement
je dessine beaucoup. Et le dessin nourrit la sculpture qui nourrit le dessin. Mais c'est parallèle. Je ne peux pas dire que c'est jamais arrivé, puisque c'est arrivé par exemple avec la danse macabre que j'avais dessinée avant de sculpter. Oui. Mais c'est relativement rare dans mon processus, dans ma manière de faire. En principe, je dessine pas. Et si je pars sur une sculpture de 3 mètres de haut, je pars sans maquette, je pars directement au format. Ce qui est bizarre, si vous voulez, ce qui n'est pas logique, ce qui est même, on pourrait presque dire idiot, parce que on se met face à des problèmes qui ne seraient pas là si je partais avec une maquette. Mais si je pars avec une maquette, je vais finir la maquette et je n'agrandirai pas.
Ça veut dire qu'en fait, vous travaillez carrément avec un escabeau hein, quand vous avez des sculptures de 3 mètres de haut, là, non?
Ah, bien sûr, oui, et même des échafaudages. C'est même pas un escabeau. Un escabeau, oui, ça arrive assez souvent, mais j'échafaude, bien évidemment.
J'imagine même pas, votre atelier doit être immense, votre atelier, non? Il doit être grand.
L'atelier est grand, mais il est pas assez. C'est-à-dire, il fait 220 mètres au sol, mais j'ai une mezzanine, j'ai 6 mètres sous plafond.
Et des grandes portes pour pouvoir passer les sculptures après, non?
Alors oui, mais bon, l'avantage, si vous voulez, avec les modèles, c'est qu'on les coupe.
Ah.
Avant de partir à la fonderie, ils sont coupés. Donc les fondeurs viennent à la maison, viennent à l'atelier. Et on les coupe, mais bon, j'ai une porte qui fait 4 mètres sur 4, si, pour vous renseigner.
Mais ça doit quand même vous faire mal au cœur, quand même, de savoir qu'on va couper une sculpture pour la sortir et la remettre ailleurs, non? Ça doit quand même vous blesser, ça, non?
Alors, les premiers temps, ça fait très bizarre.
Eh oui.
Mais c'est une bonne manière de voir la qualité de la sculpture.
Ouais, ouais.
Tout à fait honnêtement, on dit que toutes les parties de la sculpture doivent porter la sculpture en entier. Giacometti disait, une sculpture chaldéenne, si vous la cassez en quatre, vous aurez quatre sculptures chaldéennes.
Ah oui, d'accord.
Et chaque... Alors, je me régale à les voir couper parce que je me dis, est-ce que ça tient encore? Par exemple, sur le fil, la sculpture qui est exposée au parc Olivier de Magny avait les 13 personnages. Ouais. Quand ils sont venus les couper, ils ont coupé toutes les têtes. J'ai dit, bon, ça marche encore. Après, ils ont coupé tous les bras. Ah ben ça marche encore. Après, ils ont coupé les torses, ça marche encore. Et jusqu'au moment où il ne restait plus que les trois piliers, j'ai dit, mais même les trois piliers, ils disent quelque chose. Donc si vous voulez, ça c'est rassurant. Ou alors des fois, ça peut faire un peu peur et on peut se dire, merde, c'est peut-être pas aussi bon que je croyais.
Ouais, mais enfin, c'est quand même un peu stressant parce que ça peut casser ce que vous aviez dans la tête au départ. Non, c'est
non. Mais si vous voulez, leur métier, c'est de refaire la sculpture après dans le bronze, si vous voulez. Ça, c'est la partie fonderie. Et la partie fonderie, c'est un très, très gros chantier. Hein. C'est énorme.
Créer une sculpture en bronze, ça demande beaucoup de temps, j'imagine?
Alors, tout dépend. Alors, pour la partie fonderie, ça, c'est les temps sont incompressibles. C'est-à-dire il y a des temps de séchage, enfin, on peut l'évaluer assez facilement, le temps qu'il y a de travail pour la fonderie. Par contre, pour la sculpture, pour la création du modèle, j'aime pas trop ces mots, mais enfin, pour créer le modèle, ça veut absolument rien dire. C'est-à-dire que si ça marche bien, ça peut aller vite, et si ça marche mal, ça peut mettre beaucoup de temps. Et en principe, c'est un gage, c'est pas un bon gage, si vous voulez, quand le travail demande trop de temps. Bien souvent le résultat est mauvais. Ça veut dire que ça n'a pas marché facilement, si vous voulez. Ça marche pas, c'est pas parce qu'on va me dire tu travailles 8 jours de plus et tu feras un chef-d'œuvre. À partir de là, tous les sculpteurs travailleraient 8 jours de plus et il n'y aurait plus que des chefs-d'œuvre sur la terre, ouais. Ce qui n'est pas le cas. Et malheureusement, si vous voulez, il faut savoir s'arrêter. Et ça aussi, quand est-ce qu'une sculpture est finie? Je crois qu'une sculpture est finie quand on ne peut plus y apporter que de l'intelligence.
Vous savez, dans la littérature, les auteurs, ils font appel à des bêta-lecteurs avant de lancer leur roman, pour savoir si leur roman tient la route. Est-ce que ça existe, ça, dans la sculpture? Est-ce qu'il y a des bêta-sculpteurs qui vont vous dire effectivement ce qu'ils ressentent et si ça peut vous aider à lancer la sculpture en public ou pas?
Non. Enfin, je sais pas, peut-être que ça existe, mais en ce qui me concerne, si vous voulez, le seul juge, c'est moi.
Ouais.
Et je sais, pour en avoir parlé, par exemple, avec Marie-Hélène Lafon, elle écrit 3 fois ses romans. C'est-à-dire, elle écrit une première mouture avec 300 pages, elle laisse reposer un an, au bout d'un an, elle le reprend, il reste plus que 200 pages, et à la fin, elle garde des... Ouais. Marie-Hélène, elle écrit court, c'est des romans qui font entre 120 et 150 pages. Ouais. C'est enlevé, si vous voulez, c'est enlevé.
Elle le resserre.
N'importe pas, voilà. Et la sculpture, c'est exactement pareil. Ouais. Il faut enlever pour apporter. Ça aussi, c'est un concept un peu particulier, mais il faut enlever l'anecdote, là. Pour répondre à votre première question, si vous voulez. Voilà, c'est, faire de la sculpture, c'est enlever l'anecdote.
Est-ce que vous travaillez sur une seule sculpture à la fois ou plusieurs en même temps?
Alors, en règle générale, je ne travaille que sur une. Même si il peut arriver que j'en ai 2 ou 3 en route, mais j'aime pas ça, si vous voulez. Quand je suis concentré sur quelque chose... J'aime bien aller jusqu'au bout.
Avec quel regard, Marc Petit, auriez-vous envie qu'un visiteur vienne observer, ressentir votre exposition jusqu'au 20 septembre et même ce 12 juillet en votre présence?
Alors qu'il ressente ça, honnêtement, il ressent ce qu'il veut, mais par contre qu'il regarde avec de la naïveté.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
Qu'il ne préjuge pas. Et si vous voulez, vous avez le droit de considérer que ma sculpture est de très mauvaise qualité, vous avez le droit de dire que c'est horrible, vous avez le droit de dire que c'est affreux. Par contre, ça ne suffit pas. Si vous dites que c'est quelle merde ce truc, vous devez dire que c'est une merde pour telle et telle raison.
Bien sûr.
Et là, ça vous permettra de comprendre mieux la sculpture. Même si on part avec quelque chose de très négatif au départ.
Non, mais en façon, on ne peut jamais dire qu'une sculpture est une merde, pour reprendre votre terme. On ne peut pas dire ça, nous, en tant que spectateurs. On ressent des choses, c'est sûr, mais on ne peut pas définir un travail comme ça d'un artiste.
Non, mais je crois, mais je sais par expérience, pardon, je vous ai coupé, mais par expérience, je sais qu'il y a que ma sculpture génère parfois des sentiments un peu violents, des sentiments brutaux.
Ah, moi, je dirais qu'elle n'est pas indifférente.
Oui, non, mais ça, c'est sûr. Et puis, c'est le rêve de tout artiste, si vous voulez. Ouais. C'est blanc ou noir. J'aime pas du tout le gris. Hein. J'aime pas les demi-mesures.
Parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas, elle attire l'œil.
Mais bien sûr. Et une œuvre d'art est là pour déranger.
Mais c'est ça, c'est ça. Ouais.
À condition que l'artiste n'ait pas voulu, n'ait pas souhaité déranger. C'est trop facile, si vous voulez, d'aller à l'atelier, de dire qu'est-ce que je vais faire pour embêter le monde ce matin. Quoi. Ouais. Ça, c'est hyper facile. Par contre, si le résultat d'un travail honnête, d'une vraie réflexion, s'avère dérangé, l'artiste a fait son travail. Une œuvre d'art est là pour poser des questions et ne pas y répondre. Donc c'est fatigant, si vous voulez, une sculpture. Regardez une œuvre, le spectateur a quelque chose à faire. Si vous allez voir une pièce de théâtre pendant une heure et demie et que vous ressortiez comme vous y êtes entré, ça n'a servi à rien.
Absolument.
Ouais. Une œuvre d'art est là pour nous modifier. Et il y a certaines personnes qui n'ont aucune envie d'être modifiées parce qu'ils se sentent bien. Et après tout, c'est leur plein droit. Hein. C'est pas du tout. Mais après, je crois qu'on n'a pas le droit de critiquer une œuvre sans justifier sa critique.
Je rappelle que l'exposition d'une rive à l'autre, hein, donc c'est à découvrir dans les rues de Cahors, c'est jusqu'au 20 septembre. Vous donnerez également une visite commentée, je crois, de l'exposition le dimanche 12 juillet. Hein. C'est ça, ce sera à quel endroit?
Oui. Alors, le départ, c'est au parc Olivier de Magny à 10h30.
Le 12 juillet à 10h30, parfait. Donc, pour découvrir encore vos œuvres, et vous serez donc aux côtés des gens pour donner, pour expliquer les choses si on vous pose des questions, c'est ça, hein?
Oh, c'est même pas s'ils me posent des questions. Si vous voulez, je parle de mon cheminement, de mon expérience de sculpteur. Et après, évidemment, s'il y a des questions, j'essaie d'y répondre. Et puis même ça m'aide, si vous voulez, parce que moi je ne suis pas conférencier, donc j'ai beaucoup de mal à parler en public.
Est-ce que ça vous angoisse des fois, les questions qu'on vous pose? Est-ce que ça vous dérange, ou comment vous dire, est-ce que des fois vous n'avez pas la réponse?
Alors il arrive évidemment que je n'ai pas toujours la réponse, mais par contre ça m'éclaire. Ah. Justement, si vous voulez, si on me dit telle sculpture elle est rigolote, alors que moi je la trouve triste par exemple, ou le contraire, c'est aussi qu'elle est rigolote. Et je me pose la question, pourquoi telle personne la trouve rigolote? Et ça m'éclaire, si vous voulez, ça m'apporte des questionnements sur mon travail que je n'avais pas.
Bah écoutez, merci beaucoup Monsieur Marc Petit. Donc je rappelle, hein, rendez-vous donc le 12 juillet hein, pour à vos côtés hein, pour découvrir cette belle exposition à travers Cahors. Merci beaucoup.
Merci à vous, au revoir.
À bientôt, au revoir monsieur.
CFM, CFM Radio, votre radio dans le Lot.
C'est ainsi que se termine le Mac de Cahors sur CFM Radio. On se quitte avec cette très très jolie chanson de Manon Lisa, le petit pêcheur.
C'est l'histoire d'un petit pêcheur qui pêchait que le matin, parce que pour lui le bonheur c'était d'être avec les siens, profiter de sa famille, les arder sur le sable, regarder grandir ses filles, les après-mêmes au calme. Un jour qui se reposait à côté de sa barque, une question lui fut posée par un homme d'affaires en cravate. À quoi te sert de dormir sur le port alors qu'au fond de la mer tant de poissons nagent encore? Pour construire un empire, taf sans compter tes heures. Avec l'argent que t'en tires, t'achèteras un moteur. T'iras pêcher au large, tu feras plus de marge. Bientôt t'auras 10 bateaux, des bâtiments en béton. Crustacés, cétacés, finiront tous entassés dans les filets carnassiers de tes chalutiers en acier. Découleras tes stocks en faisant des filets aux fiches. La moula que tu croques, faudra pas la filer au fisc. Et là, import, export, dans les dollars tu nageras. Les fonds marins seront morts, mais t'auras une vie de roi. C'est quoi pour toi une vie de roi, dit le pêcheur? Une vie de roi, c'est pouvoir pendant des heures profiter de ta famille, les arder sur le sable, regarder grandir tes filles, les après-mêmes au calme. Mais c'est déjà exactement ce que je fais. Et le pêcheur s'en alla en fredonnant ce refrain. J'aime, j'aime quand la vie est facile. J'aime, j'aime quand le soleil brille. J'aime, j'aime quand l'amour nous fait signe. Souffle sur tes cils. Il fredonne. J'aime, j'aime quand tout me fascine. J'aime, j'aime que tu m'aimes aussi. Oui, j'aime. C'est l'histoire. l'histoire d'un petit pêcheur et l'histoire de tellement de gens. On te fait croire que le bonheur, c'est courir après l'argent. On te dit gagne ta vie, comme si vivre suffisait pas. Pas besoin d'un grand navire pour atteindre ce que t'as déjà.